Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et LyonMag.com avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Patrick Verbruggen, le co-directeur de l'ONG lyonnaise Triangle Génération Humanitaire. Patrick Verbruggen, bonjour.
Bonjour.
Vous souhaitez organiser des interventions en Ukraine. On le sait, ce pays souffre depuis plus d'un an de combats, de crises. Alors vous qui êtes allé sur place en février, quel constat vous avez pu faire?
1,5 million de personnes déplacées, pour certains dans des conditions terribles. La situation en termes alimentaires est extrêmement préoccupante. Les gens ont faim. Les aides d'État qui étaient données par le gouvernement ukrainien aux gens issus de cette région ont été coupées. Donc on se retrouve avec des personnes âgées qui n'ont plus leur pension. Des familles qui étaient soutenues par l'État ukrainien n'ont plus accès à rien. Du côté ukrainien, l'aide qui est apportée aux déplacés est de l'ordre de 18 euros par mois. Donc uniquement pour ceux qui ont des papiers. Pour ceux qui sont originaires des zones pro-russes, ils n'ont pas le droit à l'aide d'État. Donc nous, on va s'attacher sur deux secteurs. Donc le secteur russe, pro-russe. Donc là où ça sera une intervention alimentaire d'urgence avec de l'hygiène, ce qu'on appelle des kits hygiène, et avec aussi une aide psychosociale, parce que autant vous dire que les traumatismes subis par les populations, notamment par les enfants, sont terribles. Les conséquences sont, ça veut dire cauchemars, des enfants qui n'arrivent plus à dormir, qui sont violents, qu'on ne peut plus placer à l'école. Donc il y a besoin d'un soutien, ce qu'on appelle un soutien psychosocial, pour aider à ce qu'ils vivent avec ces traumatismes. Et du côté ukrainien, ça va être un accompagnement au niveau plus social, c'est-à-dire aider les gens désemparés qui n'ont droit à aucune aide, donc de leur fournir déjà toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent réclamer auprès de leur propre autorité, municipalité, préfecture, enfin l'équivalent, les aides auxquelles ils ont droit. Et également un soutien psychosocial, c'est-à-dire avec des équipes de travailleurs sociaux qui vont passer dans les familles, travailler évidemment avec des travailleurs sociaux ukrainiens pour aller discuter, écouter, prendre en compte la souffrance de ces populations qui, pour certaines, sont réfugiées depuis pratiquement un an dans des centres collectifs, quelquefois 8 par chambre. La situation est extrêmement préoccupante.
Et alors, qu'est-ce qu'on dit justement à ces personnes réfugiées qui ont parfois tout perdu et qui ne voient pas la fin de la crise arriver encore?
Quand ils nous voient arriver, c'est-à-dire des Européens, des gens neutres, parce qu'on est neutres, le fait de travailler des deux côtés, nous, déjà, c'est d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire les principes humanitaires, on travaille des deux côtés. Bien souvent, on est porteur d'espoir, on est aussi une oreille neutre. Donc juste le fait de même faire une mission d'évaluation d'une semaine, on rencontre les gens, on amène aussi quelque chose. Donc ils sont, ils voient pas la fin de la crise, ils attendent l'aide de l'Europe, l'aide d'autres pays, ils attendent que ça s'arrête. Mais depuis un an maintenant, on est vraiment rentré dans quelque chose qui est un petit peu radical, c'est-à-dire que chaque parti, chaque côté veut récupérer son territoire. Les choses doivent s'apaiser absolument, parce que là, on parle de population prise en otage en fait, et peu importe ce qu'elle pense, de quel côté elle soit. Quand un obus tombe, c'est terrifiant et ça fait beaucoup de dégâts. Donc, elles s'enfuient de leur région d'origine. Quelquefois, des pro-russes sont du côté ukrainien. Il faut savoir que les Ukrainiens, tout le monde parle russe à ukrainien. Dans le Donbass, donc qui est la région où il y a la zone de conflit, la plupart des gens étaient employés par des entreprises russes. Donc voilà, il y a une proximité, avec l'Ukraine, avec la Russie. Donc il y a quand même, c'est pas un même peuple, mais ils ont des valeurs communes et une culture commune.
Quand on se prépare à intervenir dans un pays qui est en proie à des affrontements, qui compte des milices, des mercenaires, est-ce qu'on se prépare différemment que si on part dans une zone qui est touchée par la famine ou qui a été sinistrée?
Disons que ce qu'on a, c'est des protocoles de sécurité. Oui. Donc toutes les ONG qui bénéficient d'aide publique, d'aide d'État, d'aide de l'Union européenne, ça fait partie du professionnalisme. Donc quand on intervient par exemple après le tsunami, il y a des dangers liés à l'eau, liés à la mer, liés aux bonnes pratiques hygiène, parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Quand on est en République centrafricaine, dans des affrontements de milices, on appelle les anti-balaka, les milices Seleka, donc là on a d'autres protocoles encore, c'est-à-dire de gestion, de renseignement, de savoir si on peut prendre telle route, des coupeurs de route, parce que bien souvent, ce qui part la violence est politique, entre guillemets, mais après, ensuite, arrive la délinquance. Nous, on s'est volé des 4x4, ainsi de suite, donc il faut... Donc à chaque fois on a les protocoles, on travaille évidemment au Kurdistan irakien, où on travaille auprès des réfugiés syriens et irakiens et kurdes, également les mêmes choses, c'est-à-dire chaque évaluation, par exemple on est en train de mener une évaluation sur la ville de Kirkouk, donc on a entendu parler de cellules dormantes de Daesh, donc voilà c'est des choses qu'on prend en compte, donc on se rapproche des autorités, on partage l'information entre professionnels, avec les Nations Unies, on fait partie de dispositifs. En même temps, sachant qu'on fait un métier à risque, comme beaucoup de gens, les services publics ici aussi le font, les pompiers, enfin voilà, on fait un métier à risque, mais on minimise les risques.
Alors pour que cette intervention voie le jour, hein, elle durait 7 mois en Ukraine, vous l'avez chiffré à 300 000 euros. Est-ce que pour récolter cette somme, ça passe principalement par les dons ?
Non, on n'est pas une organisation qui récolte des dons. Bien évidemment, on est enclin à les recevoir quand ils sont spontanés, mais on ne fait pas d'appel aux dons. Ce sont des opérations où il faut 7 mois, c'est estimé pour la première partie de l'urgence. C'est-à-dire, donc, en espérant que dans 7 mois, la situation évolue, qu'on n'ait plus à faire ce type de travail, qu'on soit déjà sur la reconstruction, par exemple, ça serait un vrai plus. Mais c'est des opérations importantes, pour qu'il y ait une pérennité dans ces opérations, ainsi de suite, et qu'il y ait une visibilité, il faut que ce soit des l'Union européenne, notamment. Il y a aussi la région Rhône-Alpes nous a soutenus bien souvent à leur niveau. Cette proposition, elle était envoyée au centre de crise français, à la région Rhône-Alpes, à la Fondation de France, et on se prépare à présenter un projet plus vaste à l'Union européenne pour la suite, dans les mois qui vont venir.
Alors, on l'a dit, Triangle Génération Humanitaire est né il y a 20 ans, c'était en 1994, une année qui était marquée par le génocide au Rwanda. Vous étiez là à l'époque, puisque vous êtes cofondateur de l'ONG. Vous intervenez chaque année dans une quinzaine de pays. Quelles sont vos plus grandes victoires, ces missions humanitaires qui, selon vous, ont vraiment fait bouger les choses?
Entre guillemets, notre géopolitique, c'est une géopolitique de proximité.
Oui.
Donc, ça va être, par exemple, en termes de développement, l'école hôtelière qu'on a créée au Vietnam. Donc, une école hôtelière avec le gouvernement, le ministère des Affaires sociales vietnamien, qui est aujourd'hui une école d'État, donc qui a son propre budget. Nous, on s'est retiré il y a 2 ans. Elle a formé plus de 1200 élèves au métier de la cuisine, de la pâtisserie. Notre optimisme vient de nos programmes de développement, ce que l'on fait. Parce que quand on intervient dans l'urgence, c'est déjà trop tard. Donc, bien évidemment, on va soulager pendant un petit moment une souffrance. Ce sont sur les programmes de réhabilitation, par exemple aussi sur après le tsunami, on a reconstruit à peu près 600 bateaux, relancé 12 coopératives de pêche, lancé aussi des programmes de microcrédit. Dernièrement, j'ai une nouvelle de 2 programmes de microcrédit continuent à fonctionner et elles sont plutôt à l'aise financièrement.
Donc il y a ces petites victoires, mais j'imagine que de l'autre côté, votre pire souvenir ou l'un de vos pires souvenirs, ça reste en 2011 l'enlèvement de 3 de vos employés. C'était au Yémen. Ils avaient passé 5 mois comme otages avant d'être libérés. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler, de préparer vos missions?
On s'est retiré du Yémen. 2 ans avant, on avait eu déjà une prise d'otage au Darfour. Donc, ça faisait beaucoup, on va dire, de prise d'otage. Et c'est vrai que le Yémen, qu'on connaissait bien depuis 1998, on y travaillait. Donc voilà, on a préféré se retirer pour aussi nous apaiser. Parce que c'est quand même un terrain qui nous a traumatisé, cette histoire. Enfin, c'est quand même quelque chose qui dure, qui est long. Les familles souffrent. On est aussi des réactions de rejet par rapport à ce qu'on fait, quelquefois, en disant « Mais qu'est-ce que ces gens ont été faire là-bas » Alors qu'on menait des programmes fantastiques qui vraiment sont venus en aide à des centaines de paysans. Nos protocoles de sécurité, on les étoffe de plus en plus, compte tenu de la menace qui peut arriver. Mais il faut faire attention, parce que sinon, si on continue à trop être dans la douleur de la sécurité, on ne va plus rien faire, on ne va plus travailler.
Donc vous n'avez pas changé, mais est-ce que vous avez perçu un changement dans la perception que peuvent avoir des gens dans certains pays par rapport aux ONG? Est-ce que vous vous sentez pris pour cible désormais?
Disons qu'on est pris pour, on est pris pour les coffres forts. Enfin, ce qui change, c'est ces prises d'otages, qui est un business international en fait. Parce qu'au final, c'est que pour l'argent. Même quand ACPA, Al-Qaïda enlèvent, c'est pour leur trésor de guerre. C'est pas pour une revendication politique, c'est la façade.
Merci Patrick Verbruggen. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lionmag.com.